On va commencer cette rencontre avec Claire Mestre. Bonjour et merci d'être là. Moi, je m'appelle Dominique Rateau et j'ai exercé en Aquitaine une mission livre petite enfance au sein du Centre régional des lettres d'Aquitaine. Et je suis actuellement présidente d'un réseau national qui s'appelle l'agence Quand les livres relient. Je vais vous faire une petite présentation de Claire Mestre avant d'entamer une discussion avec elle. Claire, donc on se tutoie à la ville et on va se tutoyer aussi maintenant. Donc tu es psychiatre, psychothérapeute, ancien chef de clinique des hôpitaux de Bordeaux. Tu es docteur en anthropologie. Tu es praticien hospitalier à temps partiel, responsable de médecine transculturelle au pôle de médecine urgence du CHU Saint-André à Bordeaux. Tu es aussi directrice scientifique et médicale de l'association MANA, on aura l'occasion d'y revenir, et tu es rédactrice en chef de la revue L'Autre, clinique, culture et société, que vous trouverez tout à l'heure là-bas aussi, et tu es auteur et co-auteur de plusieurs publications. Ce qui nous lie et comment on s'est rencontrés, c'est que nous faisons partie toutes les deux du collège de la revue Spirale, la grande aventure de Monsieur Bébé, qui est publiée chez RS et qui est dirigée par Patrick Bensoussan. L'objet de notre rencontre, c'est donc une discussion avec Claire Mestre. Alors, je voudrais dire, parce que c'est important peut-être sur le sujet qu'on va aborder, qu'on est aussi lié par un projet de l'agence Quand les livres relient, qui s'appelle Babil Babel, et qui est en fait un séminaire interdisciplinaire qui va se mettre en place pendant 3 ans et qui a pour objet de penser le langage, les langues et le plurilinguisme. Voilà. Et ce soir, on va avoir une discussion autour de ce petit livre, Bébé d'ici, mère d'exil, qui est publié chez RS dans la collection Mille et un bébé. C'est le numéro 149. Cette petite collection fête ses 20 ans cette année. Voilà. Alors, ma première question, Claire, ce serait peut-être pourquoi ce titre et pourquoi une préface de Marie-Rose Moreau qu'elle a intitulée « Être et faire, être femme, être mère en situation transculturelle. »
Merci Dominique, et puis merci d'être venu écouter donc la présentation de ce livre. Alors le titre, bon, déjà en accord avec l'éditeur, avec Patrick Bensoussan, en rapport je dirais avec la petite rubrique qui existe à Spirale et dont je m'occupe, qui s'appelle Enfants d'ici, parents d'ailleurs. Donc voilà, c'est pour mettre l'accent effectivement sur la migration, et particulièrement une migration difficile. Toutes les migrations ne se ressemblent pas, celle d'exil est particulièrement difficile. Voilà, donc ça mettait en évidence la notion d'exil. Alors Marie-Rose Moreau, parce que nous avons un compagnonnage qui est très ancien en fait, nous sommes toutes les deux, on va dire, des commères, hein, au sens d'être mère avec, comme elle le dit si bien. Et il me paraissait évident que j'arrivais dans les pas de Marie-Rose, qui depuis maintenant, effectivement, 20 ans, travaille dans ce domaine-là. Elle a défriché le domaine en se préoccupant donc des enfants de migrants, enfants bébés, enfants adolescents aussi. Et donc, bien sûr, je me suis réappropriée tous ces travaux. Je me suis appropriée aussi toute l'anthropologie sur la question de l'enfance, de ce qu'on appelle la parentalité. Et je voulais aussi non seulement me réapproprier son travail, mais finalement orienter nos travaux dans une dimension plus politique, puisque la question de l'exil engage des questions de soins, évidemment, bien sûr. Moi, je suis avant tout une soignante, mais des questions très politiques en termes d'accueil, comment on accueille les parents, bien sûr, comment on accueille tous les migrants, et particulièrement ceux qui demandent l'asile, mais comment on les accueille pas très bien en ce moment, et comment ça a des impacts aussi sur les bébés qui naissent sur le sol français. Voilà.
On pourra revenir sur cette question tout à l'heure. Alors ça, c'était important, cette filiation avec déjà des travaux qui ont été faits. Je trouve que tout au long de cet ouvrage, tu valorises le travail en équipe et la pluridisciplinarité. Alors, ça me fait rejoindre la création de l'association MANA. Pourquoi cette association? Quand est-ce que ça s'est fait nécessaire à la création de cette association? Et pourquoi ce nom?
Alors, l'association, elle a 20 ans maintenant. Elle va fêter ses 20 ans l'année prochaine. La consultation est un tout petit peu plus ancienne. Alors, à l'époque, il s'agissait pour moi et pour les personnes qui travaillaient avec moi d'abord de créer les conditions d'un accueil transculturel, ce qui n'était pas possible avec les moyens hospitaliers. Donc très vite, on a été plongé dans le domaine associatif. Comme je le dis, tout ce qui est la défense des étrangers en France a commencé par le domaine associatif. Donc c'était aussi une deuxième filiation, en plus de la filiation, je dirais, hospitalière, et qui s'est d'ailleurs qui s'est toujours montrée très importante, cette notion d'accueil, de défense des droits et maintenant du soin. Voilà. Alors à l'époque, moi je suis, comme tu l'as dit, anthropologue, il s'agissait de choisir un nom qui nous rattachait aussi à cette dimension anthropologique. Donc on a choisi MANA. Pourquoi? Parce que MANA était un terme qui avait été étudié par nos ancêtres, nos pères fondateurs en anthropologie, dont Marcel Mauss et après Lévi-Strauss. Et c'est un terme tahitien qui veut dire la force cachée des choses. En fait, le monde est animé. Il y a toujours du MANA derrière les choses, les êtres, évidemment. Et nous l'utilisons dans le sens de l'efficacité symbolique qui a été donc traitée par Lévi-Strauss. Voilà. Il se trouve que par ailleurs, le terme MANA ouvre sur la polysémie, sur les manes, par exemple, des ancêtres en France, mais ça veut dire aussi mère en grec. Et puis chacun, dans sa langue, a un signifiant autour de MANA. Voilà.
D'accord. Donc c'est Babel. C'est dans Babel. L'ouverture, c'est Babel. Voilà. Alors, ce que je trouve aussi que dans cet ouvrage, tu valorises la clinique. Et moi, quand j'entends la clinique, alors je suis orthophoniste aussi de formation, j'ai travaillé 20 ans dans le champ du soin. La clinique, pour moi, ça évoque l'observation, le soin, une forme de réalité subjective des rencontres et des situations. Et tu affiches tes références ethno-psychiatriques, qui allie la psychanalyse et l'anthropologie, ça peut-être aussi tu pourras nous en dire quelque chose. Tu affiches aussi des références philosophiques, comme par exemple la pensée complexe d'Edgar Morin. Il dit, lui, la pensée complexe est la pensée qui embrasse le divers et réunit le séparé. Tu écrit également que la position du chercheur et du clinicien suppose engagement et reconnaissance de l'autre et éthique. Et tu fais aussi référence à la notion du care. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ça? Et après, je reviendrai au sens de ma question.
Alors, le care, c'est tout l'apport des sciences humaines américaines. Et sur le plan de la France, c'est Fabienne Brugère, en fait, oui, qui a réintroduit cette notion-là et l'a approfondie, notamment avec Guillaume Leblanc. Et c'était important. Alors, sans doute que c'est parce qu'on a affaire à des femmes. Bon, on parle des mères, hein, même s'il y a l'ombre toujours des hommes quelque part. Et nous sommes aussi nous-mêmes des femmes, alors pourquoi des femmes? C'est un peu un contexte qui fait que nous avons assez peu d'hommes qui viennent travailler avec nous. Et je crois qu'on était particulièrement intéressés par cette notion qui collait, je dirais, pile poil avec ce que l'on voyait du travail très souterrain, alors notamment des femmes et du care, et qui venait en complément du cure, qui est toute la dimension hospitalière du soin. Il n'y a pas de cure sans care, pour moi, en tous les cas. La médecine, si elle ne s'accompagne pas d'une pratique anthropologique, eh bien, elle est vouée à être que la caricature d'elle-même, c'est-à-dire un soin qui va être un soin vétérinaire, on pourrait dire. Voilà, donc tout le sens de ce care.
D'accord. Alors, avec tout ça, tu prends bien sûr et vous prenez bien naturellement en compte la question de la langue de chacun dans ces conditions de la rencontre et du soin. Et tu dis que la consultation transculturelle à la maternité et pluridisciplinaire, et tu cites qu'il y a un psychologue, un anthropologue, un interprète si besoin. Donc on y reviendra tout à l'heure sur la place et le rôle important des interprètes, qui est toujours en travail en fait, hein, comme la place du thérapeute, et deux stagiaires. Alors, est-ce que tu peux nous dire, par rapport à tout ce que j'ai évoqué, à la fois du CARE, des références philosophiques, psychanalytiques, anthropologiques, sur la pluridisciplinarité, comment tu mènes, comment vous menez ensemble à la fois les actions et les réflexions qui amènent ces actions ?
Alors, c'est vrai qu'on a coutume de dire entre nous que plus les situations sont compliquées et difficiles, plus il faut de personnes. En fait, ça c'est vraiment très important. De toute façon, pour moi, l'aventure de la pensée ne peut se faire dans la solitude. C'est pas possible. Moi, j'ai toujours travaillé en équipe. Je suis ravie de travailler en équipe. Et je dirais le travail de la pensée se fait beaucoup dans le groupe, que ce soit pour nos patients d'ailleurs et que ce soit pour nous. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Alors, pourquoi la prolifération effectivement des références ? Ça, c'est vrai que ça peut amener à la confusion. Or, on essaye de ne pas être confuse.
Non.
Alors, d'abord, ça part du principe de lieux et de pratiques qui ont existé avant nous, où notamment la référence forte donc à l'anthropologie, à la psychanalyse, pour dire tout simplement que tout individu est doué d'un psychisme et d'une culture, ça c'est vraiment le béaba, et que pour mettre en œuvre cette complexité-là d'emblée de l'humain, il faut être plusieurs, donc plusieurs. Alors, encore une fois, on n'est pas toujours un groupe dans les soins, mais très souvent, c'est une pratique qui est groupale. Ensuite, il y a un outil qui permet d'articuler justement la question individuelle et la question collective. Cette méthodologie, donc c'est le complémentarisme de Georges Devreux, qui permet d'avoir plusieurs types de discours, mais de façon non simultanée. Ça, c'est effectivement très important. Et je dirais aussi que la clinique, finalement, psychothérapeutique, elle est traversée par la société. Ça, pour moi, il y a toujours un continuum entre le fait d'être en lien intime, évidemment secret, avec une personne, même si on est en groupe, on est dans le secret, et articulé à la société, au contexte dans lequel évolue cette relation-là, qui est une relation malgré tout citoyenne, qui est la relation du soignant au soigné. D'où l'importance effectivement des références qui vont être utilisées pour comprendre un certain nombre de choses. D'abord la complexité, c'est pour ça qu'Edgar Morin, alors moi je ne connais pas toute l'œuvre d'Edgar Morin parce qu'elle est immense, mais Edgar Morin est un chercheur qui est très atypique, qui a étudié aussi bien la mathématique que l'anthropologie par exemple, et qui arrive effectivement à articuler la question de la complexité. Donc moi, aux personnes qui généralement ne sont vues que d'une question d'une manière extrêmement simple, voire simplifiée, il me faut reconstituer cette complexité, et je dirais que c'est une méthode au fond qui permet d'ordonner aussi et d'articuler les différents discours qu'il peut y avoir sur une personne. De toute façon, comme je le disais, la question de la pensée, de la réflexion, de la recherche, elle est inhérente pour moi à l'équipe que j'anime, parce qu'il s'agit d'abord de comprendre ce qui nous est donné à voir, à entendre, c'est-à-dire de la souffrance humaine et particulièrement de la souffrance en exil. Et pour comprendre, effectivement, les deux références, donc c'est la psychanalyse, c'est-à-dire tout l'insu de la personne, et puis le contexte, la dimension du contexte, et puis la dimension de l'histoire, aussi tout ce qui est de l'insu de l'histoire avec un grand H. Après, il nous faut soigner, c'est-à-dire y comprendre, c'est la première démarche. Après, il faut soigner, c'est-à-dire dans l'éthique, ça c'est là où se trouve l'éthique, il nous faut, je dirais, après avoir compris quelque chose, il nous faut agir en quelque sorte. Soigner, c'est aussi agir, c'est aussi orienter la compréhension vers un but. Et je dirais qu'après, il y a toute la réflexion sur cet agir-là. Pour nous, c'est très important. On a beaucoup de lieux d'échange en équipe, alors que ce soit dans l'immédiat, dans l'après-coup de la consultation, que ce soit par les supervisions, évidemment, nous sommes supervisés, et ou que ce soit dans les réunions que nous partageons, alors avec des professionnels, avec les stagiaires aussi. Tous ces lieux-là sont des lieux de pensée, des lieux de production de la pensée. Alors, on a un grand souci aussi, enfin, en tous les cas, le mien, et avec l'âge, ça s'aggrave, je dirais, c'est la question de la transmission. Or, pour transmettre, il faut avoir une pensée qui est organisée. Ce n'est pas possible de transmettre si on est juste dans le sensation, dans le senti, dans le ressenti. Il faut organiser sa pensée, il faut même la théoriser. Et que c'est comme ça, quand on a réussi à peu près à théoriser et à transformer justement cet acte de soin en une pensée transmissible, que se poursuit le soin avec la volonté très claire, c'est qu'à partir des lieux cliniques, hein, des lieux d'écoute individualisés, puisse aussi se modifier la société. C'est aussi un idéal.
Voilà. Alors, il y a une dimension tout à fait politique, au vrai beau sens du terme, qui apparaît dans le travail que vous proposez. Et j'aimerais bien que tu puisses nous en dire un petit peu quelque chose de ce positionnement et des questions qui sont... Ça rejoint peut-être la question qui apparaît très clairement dans ton livre. C'est d'abord, tu abordes la question de la différence entre réfugiés et migrants. Ça, j'aimerais bien que tu nous en dises quelque chose. Et puis, il est clairement dit explicitement qu'il y a une dégradation de l'accueil des migrants. Est-ce que ça, tu pourrais nous développer un petit peu ton expérience par rapport à ça?
Alors, il y a beaucoup de choses, en effet, à dire. Alors, c'est vrai que les populations que je rencontre depuis 20 ans ont beaucoup évolué. Et il y a 20 ans, nous n'avions pas du tout ce public-là. Et l'évolution de la clinique s'est faite en effet avec l'évolution des migrations en Europe et en France. Alors, il faudrait reprendre la politique de l'État par rapport de l'État et de l'Europe par rapport aux migrations, qui fait que un certain nombre de migrations ne sont plus possibles, les migrations économiques notamment. Les États affichent très clairement le fait qu'elles ne veulent plus recevoir de migrants pour des raisons économiques. Mais par contre, il reste une voie extrêmement étroite pour ceux qui veulent partir de leur pays, c'est la fameuse demande d'asile qui va donner le statut de réfugié politique. Donc en fait, réfugié, c'est juste un terme administratif, c'est tout. C'est-à-dire que les exilés, j'aime bien ce terme-là, vont arriver en France en n'ayant donc que cette petite possibilité de demander l'asile en France. Ils devront prouver d'ailleurs les raisons pour lesquelles ils ont fui leur pays et qu'ils sont en danger. Et après, ils obtiendront le statut de réfugié politique. Alors, les conditions se sont aggravées donc, avec 20 ans de perspective. Alors, pourquoi ? Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que, d'abord, nous sommes très clairement témoins de personnes qui fuient des régimes assassins, comme pour la Syrie, des régimes qui répriment, comme beaucoup de pays, ou des régimes qui affament aussi, tous les trois en même temps. Ou bien aussi des personnes qui migrent, quelle que soit leur raison, c'est-à-dire dans le but d'améliorer leur vie, en fait. Souvent, les gens n'ont pas d'autre but que celle d'améliorer leur vie et celle de leurs enfants. Ça, c'est une dimension très importante. Donc, probablement que les guerres, il n'y en a peut-être pas plus il y a 20 ans que maintenant. Par contre, quand même, il y a quand même des foyers. Par exemple, on pense à la Syrie en ce moment, où très clairement, il y a des migrations importantes. Il faut dire aussi que parallèlement à ces conflits, l'Europe a dressé des murs, a dressé des barrages, et que les chemins migratoires sont devenus extrêmement dangereux. Ce qui fait que, finalement, quand nous recevons les personnes, non seulement elles ont vécu des choses dans leur pays qui sont toujours difficiles, puisque nous voyons quand même les gens qui souffrent le plus, mais de plus, elles ont eu des trajets migratoires extrêmement longs et parfois extrêmement fracassants. C'est-à-dire elles ont perdu, non seulement leur pays, mais dans le chemin migratoire, elles ont perdu d'autres membres de la famille, des amis, des enfants aussi. Elles ont été l'objet de trafic humain, c'est de plus en plus fréquent. Les médias nous donnent maintenant suffisamment d'images pour qu'on sache la réalité de ces trajets migratoires. Et enfin, la troisième étape, c'est l'accueil donc sur le sol européen et sur le sol français. Et là aussi, alors sous l'effet effectivement d'une politique politicienne, je dirais, pour certainement faire plaisir à quelques partis extrémistes, on a durci les conditions d'accueil. Ce qui fait que des choses qu'on ne voyait pas il y a même 10 ans, même 5 ans, on les voit maintenant, c'est-à-dire des gens qui vont dormir à la rue. Et même des familles et même des enfants. Voilà. Donc c'est tout ça l'exil, en fait. C'est l'exil, c'est quand les personnes n'ont absolument aucune possibilité de reconstituer, je dirais, un semblant de home, d'intérieur, de chez soi, pour reconstruire leur vie. Et que le soin va être probablement pour nous une entrée pour amenuiser justement ce sentiment d'exil et essayer de construire par cette porte-là à une espérance, je dirais au moins, devenir en France. Voilà. Donc, d'où l'aspect assez politique, parce qu'effectivement, nous intervenons dans une marge qui est celle non seulement de personnes qui sont en entre-deux, mais aussi dans une marge politique où la question migratoire, alors je dirais malheureusement, devient l'objet maintenant des enjeux politiques extrêmement puissants, ce qui ne l'aide pas, puisque ça aggrave justement les surenchères sur ce qui concerne les raisons politiques. Donc, en tant que soignant, forcément, on est citoyen. Et forcément, on est, je dirais, au fait de ces questions-là. Et forcément, nous sommes obligés d'en tenir compte, car nous demandons des financements. Donc jusqu'à présent, on peut dire qu'on n'a jamais eu de soucis de financement, puisque finalement, nos interlocuteurs sont toujours très compréhensifs. Mais les financements destinés à cette question-là, ça me nuise, parce que vous savez qu'il y a aussi eu la crise qui est passée par là, avec beaucoup d'associations qui ont dû fermer leurs portes et même des associations qui s'occupaient de personnes migrantes. Il se trouve que nous avons surnagé, survécu à cause justement de notre côté institutionnel, puisque la consultation est aussi hospitalière. Alors, il y a aussi une autre chose, c'est que nous accueillons beaucoup de femmes, d'où ce travail-là. Et qu'effectivement, la question de la femme, outre la question clinique, est aussi un objet politique en soi, c'est-à-dire que, de tout temps, finalement, la domination s'est toujours faite sur le corps des femmes.
Tout à fait.
Tu le sais bien, n'est-ce pas? Voilà. Et que ça, nous, finalement, nous recevons des femmes pour lesquelles il y a une accumulation de domination, parce que non seulement elles sont femmes, mais elles sont étrangères, elles sont noires aussi, ou elles viennent de pays qui sont, je dirais, qui dans, je dirais, l'échelle mondiale occupent ce sont des subalternes, pour reprendre des termes des sciences humaines anglo-saxonnes. Ce sont des subalternes. Voilà. Donc, évidemment, cette condition-là, il faut la prendre avec beaucoup de précaution, parce que, en fait, de façon tout bête, plus on est subalterne, plus on peut être l'objet de violences, dont les violences institutionnelles, qui sont des violences qui ne sont pas des actes de cruauté ni des actes de sadisme, qui font que nos institutions ne prennent pas soin du plus petit, généralement. Mais ça, c'est une donnée qui appartient à tout le monde. Hein. C'est pas propre à la France, c'est pas propre à l'Europe, mais c'est voilà. Donc, il nous faut, dans le soin, tenir compte de ce contexte-là. Pourquoi ? Parce que si on ne fait pas attention à ce contexte-là, on va prendre pour du psychisme ce qui n'en est pas. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que, alors ça, là aussi, on arrive après des cliniciens qui ont travaillé et qui ont dénoncé justement comment, alors justement sur le colonialisme, hein, comment le fait de ne pas tenir compte du contexte fait qu'on va prendre pour de l'ontologie, je dirais, pour ce qui appartient à l'individu, ce qui en fait appartient au contexte. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important, d'où l'importance d'un outil qui permet d'articuler la question de l'individu, de la personne au collectif, et d'être plusieurs, finalement, pour restituer la complexité de l'humain au lieu, encore une fois, de le simplifier à l'extrême. Quelqu'un qui sera dans une situation d'être subalterne, d'être en minorité, en tous les cas, et d'être écrasé, n'aura pas la capacité de parler comme pourrait le faire un individu qui serait doté d'une situation sociale, d'une situation intellectuelle, d'une situation culturelle, où il peut prendre la parole tout à fait aisément, comme je le fais actuellement. Ça, c'est pas possible. Il faut beaucoup de conditions, et particulièrement pour les femmes, pour pouvoir restituer et pour pouvoir parler et pouvoir dire en quoi elles souffrent.
Oui, ça me paraît vraiment au cœur de tout ce qui émerge de votre travail, et ça me fait rejoindre la question que je voulais te poser. Page 133, tu écris « La consultation met en place un dispositif de soins psychothérapeutiques et de médiation culturelle » qui vise la réhabilitation de la pensée. Et dans cette partie du livre, tu parles de Roland Gori qui affirme « Il faut des conditions politiques et subjectives particulières pour que la parole circule, que le récit se raconte, que l'histoire s'éprouve en se transmettant sans jamais se livrer dans sa totale vérité. » Alors, est-ce que tu pourrais développer là, la façon dont vous mêlez dans votre travail soins et médiation culturelle et ce que cela induit comme position pour les thérapeutes, parce que la complexité du positionnement dont tu parlais pour les personnes qui arrivent, c'est aussi une complexité dans la façon dont vous les accueillez et dont vous pouvez travailler avec elles. Et ce sera peut-être aussi l'occasion à ce moment-là de reparler de la place de la langue et de la place des interprètes dans le travail que vous menez.
Alors, pour reprendre en fait les choses au niveau de la clinique, on s'est aperçu, mais ça c'est une constante, c'est que en effet certaines personnes ne disaient rien. Alors on peut dire oui, c'est parce qu'elles ne savent pas ce que c'est qu'un psychologue. Et effectivement, pour certaines personnes qui arrivent de loin, la question de la psychothérapie c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible. Et comme je le dis, la psychothérapie ça s'expérimente en fait. Ça s'explique pas, ça s'expérimente.
Bien sûr.
Alors, voilà, et puis, donc, il y a toujours cet ajustement de pouvoir être dans un lieu qui, où la parole permet le soin. Moi, c'est comme ça que je définis la psychothérapie auprès des patients, faire comme une forme de pédagogie, les insister effectivement au récit d'eux-mêmes. Et voilà, et donc, à partir de là, de cette notion extrêmement simple de les inciter au récit d'eux-mêmes, il faut réunir les conditions pour que ce soit possible. Alors, il y a plein de faits qui font que cette parole, elle est brimée. Alors, je vais en citer quelques-unes. D'abord, les questions, je dirais, très psychiatriques ou psychothérapeutiques, qui sont la question traumatique. En ce moment, les médias reprennent beaucoup cette notion de traumatisme. En tous les cas, ce qu'il faut savoir de façon simple, c'est qu'un individu qui sera traumatisé au sens, on va dire, psychique du terme, est une personne qui est privée de la capacité de raconter. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, les autres raisons du mutisme, c'est que nous avons, par exemple, des personnes qui sont victimes de la torture et de la répression politique. Or, la torture, elle n'est pas appliquée pour parler, elle est appliquée pour faire taire. Et en fait, l'obligation de taire chez quelqu'un qui a été victime de torture, il va perdurer, en fait. Ça va être très, très long de restituer à l'autre la capacité de parler. L'autre chose, c'est comme je disais, les conditions du contexte, c'est-à-dire que si on est dans un contexte où d'abord on ne se sent pas entendu, où on sent pas qu'il y a en face de soi un intérêt pour le récit, les gens ne parlent pas. D'ailleurs, la question de la restitution, que ce soit dans une psychothérapie banale, je dirais, c'est que le psychothérapeute montre qu'il a de l'intérêt pour le récit de l'autre, et c'est cet intérêt-là qui va amener la personne effectivement à pouvoir se livrer. L'autre chose qui peut brimer le récit, c'est l'injonction justement du dire. Les personnes qui arrivent en France et qui demandent donc l'asile, donc le statut de réfugié politique, ils vont être contraints de passer par des instances étatiques où ils vont raconter ce qui leur est arrivé. Or là, on est devant une dimension extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que c'est tout simple, en fait. Il suffit de raconter que pour obtenir le statut. Or, la question, alors je ne peux pas la développer ici, mais elle est très compliquée. Et qu'en tous les cas, il y a des formes de récits qui sont légitimées pour obtenir, en fait, le statut de réfugié politique. Or, nous, et c'est là, je dirais, un des exercices de l'équipe, nous ne faisons pas partie ni des agents de l'État, ni de la police, et nous ne demandons pas le récit qui permet de légitimer la présence en France. Ça, c'est vraiment important.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire, il faut se décaler par rapport à cette obligation-là. Alors, ça, on finit par y arriver, mais on s'est aperçu que malgré tout, nous avions affaire à une clinique qui était faite de trous, qui était faite de silence, qui était faite de mutisme. Et c'est à partir de là que l'on s'est dit, pourtant, ces gens viennent, donc on n'est pas dans l'absence de demande, on pourrait dire, bon, c'est qu'ils n'en ont pas besoin. C'était pas ça, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement, les gens venaient, ne parlaient pas forcément, Et c'est à ce moment-là qu'on a, on a bien vu d'abord que la question de l'attente, du statut, était aussi, je dirais que le manque de perspective, c'est-à-dire le fait, la crainte d'être, par exemple, de repartir dans son pays, était aussi un empêcheur de penser. Donc on s'est dit, on va créer d'autres lieux que la parole, en fait c'est parti de là, d'autres lieux de parole, qui vont être des lieux pour, je dirais, réenclencher un mouvement chez la personne, un mouvement de vie. Ces ateliers, alors ça a été les ateliers de peinture. On a développé les ateliers contes, les ateliers d'accueil du nouveau-né, comme c'est explicité dans le livre, donc qui étaient plus destinés aux mères et à leurs bébés. Et à partir de là, je dirais que là aussi, ça a été tout un travail, je dirais, de réflexion et d'écoute des patients. Parce qu'ils ont, alors la question de la peinture est extrêmement intéressante, parce qu'ils sont, alors avec une artiste peintre, hein, c'était vraiment, c'était pas des lieux d'art-thérapie au sens classique du terme, c'était des lieux d'expression en fait, avec quelqu'un qui était motivé, qui savait transmettre la capacité de créer, et qui produisait, alors là aussi le rôle du collectif a été important, en tous les cas il est sorti de ces ateliers de peinture des objets, qui étaient des objets esthétiques, ça c'est important, le rôle de l'esthétique aussi dans la pensée, et qui nous ont beaucoup intéressés. Donc à partir de là, c'est noué toute une réflexion sur l'articulation, je dirais, de la pensée, mise en berne par les conditions du statut de demandeur d'asile, et puis cette capacité de créer qui était, entre guillemets, récupérée dans les consultations psychothérapeutiques, où il y avait tout d'un coup un mouvement très clairement qui s'initiait et qu'il nous fallait amplifier. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est de plus en plus intéressés par les questions de créativité, de création, parce que effectivement, elles ne passent pas forcément par la parole, mais elles enclenchent une pulsion de vie, pour moi, très clairement, dans un but qui n'est pas forcément la réflexion sur soi, mais ça y rejoint quand même, mais qui, en tous les cas, la question esthétique et la question de montrer, et c'est ce que nos patients nous disent, de montrer aux autres qu'ils sont capables de quelque chose. Ça c'est tout le travail qui est fait dans les expositions de peinture. On a aussi fait des livres avec eux. C'est qu'à ce moment-là, ils ne sont plus rien, ils sont absolument... Ils naissent à quelque chose. Mmh. Et ces mouvements-là, on les travaille, on essaye de les amplifier.
Avec la présence des artistes, donc, et de la culture au sens large.
C'est ça, tout à fait.
Alors, à ce moment-là, la place des interprètes, qui est un rôle tout à fait particulier et qui est tout le temps en travail, en fait, comme votre travail à vous. Votre travail est tout le temps en travail.
Tout à fait, c'est un work in progress, comme je dis. C'est que c'est jamais abouti, en fait. C'est toujours, ça continue toujours. Alors, en effet, le travail de l'interprète est fondamental, parce que, comme je dis, il n'y aurait pu y avoir de consultation transculturelle s'il n'y avait pas eu d'interprète. Ça, c'est du béaba. Alors, évidemment, heureusement, on a aussi des patients francophones pour lesquels il n'y a pas besoin d'interprète. Mais en tous les cas, pour que le soin... Alors ça, c'est vraiment une mission, je dirais, pratiquement, c'est d'apporter l'outil psychanalytique au plus petit des petits. C'est-à-dire, quelle que soit la situation sociale, quelle que soit la situation linguistique, quelle que soit la condition administrative. Ça, c'est vraiment, pour moi, un vœu qui m'est très cher. Alors, il faut des interprètes, c'est-à-dire qu'il faut accepter pour le thérapeute de travailler avec un tiers. Bon, déjà, nous, comme on est souvent en équipe, ça pose pas trop de problèmes, mais c'est surtout après se plonger dans cette espèce de mécanique qui est la traduction. Et là, je dois dire, on n'est pas venu au bout de cette complexité-là. C'est-à-dire que les interprètes, ils sont bilingues, en principe. Ils maîtrisent presque aussi bien leur langue maternelle que la langue d'accueil. Ils sont volontaires, c'est-à-dire qu'ils ont envie, ils ont le désir, comme dirait Ricoeur dans la traduction de traduire pour l'autre, ça c'est vraiment une compétence exceptionnelle parce que tous les interprètes n'ont pas forcément envie de faire ce travail-là, qui est difficile. Et ils ont envie de travailler effectivement avec des thérapeutes. Mais le travail qui est de traduire, c'est-à-dire de faire passer, je dirais, les mots, les expressions d'une langue à l'autre, est vraiment un travail vraiment d'une grande complexité.
Oui, bien sûr.
Parce que les interprètes, et ben voilà, il faut qu'ils apprennent une technique, ils ont un psychisme, hein, ils ne sont pas des machines, ils sont des humains qui aussi ont vécu parfois aussi des choses très difficiles. Ils ont aussi des sentiments, c'est-à-dire qu'après un interprétariat, ils peuvent se sentir frustrés. La plupart du temps, ils se sentent d'ailleurs frustrés. Ils ont le sentiment qu'ils n'ont jamais allé jusqu'au bout de leur mission. Ils se posent des tas de questions. Ils ont eu aussi des mouvements de sympathie, de rejet, de dégoût, comme les thérapeutes. Donc, il a fallu, au fond, une fois qu'on a levé, je dirais, cette espèce de lieu un petit peu mystérieux qui est le domaine de l'interprétariat, il a fallu s'y atteler. Voilà. Donc ça fait partie d'un champ qu'on continue effectivement alors à réfléchir, alors plus tout seul, puisque en fait la question de l'interprétariat touche toute la France et toute l'Europe également. Et il y a plein de questions là-dessus, c'est comment accompagner les interprètes, d'abord à quelles conditions on peut être interprète, comment les accompagner, quelle est la technique à avoir pour eux, et comment transmettre là aussi, comment former d'autres interprètes qui vont faire ce travail-là. Voilà. Donc on en est là et c'est passionnant.
Encore un
en
chantier.
Oui, c'est un chantier, mais c'est absolument, c'est extrêmement passionnant également.
Ben parce que ça pose aussi la question de l'humain, de la place de la langue, et pour chacun, et comment ça le construit en même temps que la langue s'élabore quand l'être humain se construit.
Complètement, parce qu'effectivement, l'idée très simple, c'est de dire, pour communiquer de façon très basique, il faut la langue, donc ça, c'est une première chose. Et puis après, la langue, comme tu dis, c'est l'accès au langage, évidemment. C'est aussi l'accès à l'affect, à l'émotion, puisque parler dans sa langue maternelle, tout d'un coup, alors justement, des personnes qui peuvent être extrêmement peu bavardes dans la langue d'accueil peuvent tout d'un coup être très prolixes et avoir plein d'associations dans leur langue maternelle. Et puis ce passage de la langue maternelle à la langue d'accueil, ça produit encore autre chose, ça produit encore un
encore
autre sens.
D'autres créations.
Exactement, ça crée d'autres créations. Et puis il y a de façon beaucoup plus rare, mais ça peut arriver, des personnes qui ne veulent pas parler dans leur langue maternelle, ce qui est encore autre chose et ce qui, évidemment, est très légitime. On ne les force pas, il n'y a pas de forçage de parler et d'élaborer dans sa langue maternelle, mais on peut faire également des psychothérapies dans une langue tierce, par exemple, qui n'est ni celle du thérapeute, ni celle du patient. Ça, c'est rare, mais ça peut exister. Et puis, des personnes qui demandent à faire, à utiliser la langue d'accueil, ce qui permet, alors voilà, la traduction du traumatisme et de ne pas affronter de front, je dirais, ce qui a créé de la souffrance dans la langue maternelle. Voilà. Enfin, de façon très simple, le panorama qui s'offre à nous, et en tous les cas, c'est utiliser la langue de l'autre, c'est décupler les capacités de pensée, effectivement, parce que ça va se faire dans plusieurs langues, en fait, l'élaboration. Et ça aussi, c'est très intéressant, parce que, par exemple, quelqu'un va commencer par parler dans sa langue maternelle, il va y avoir de la traduction, avec toute la complexité de traduire. Alors, c'est des mots, mais c'est aussi des idées, c'est des métaphores, c'est pas traduire que des petits bouts de mots, c'est un peu plus compliqué. Et puis après, il y a des choses qui va travailler dans la langue d'accueil. Il peut y avoir la coexistence de deux langues, justement, en fonction des interdits, des tabous. Alors, des tabous, il y en a de très simples. La sexualité, évidemment, qui va pouvoir se dire dans une autre langue que la sienne. Voilà. Donc, toutes ces subtilités-là, jusqu'à ce qu'un jour, alors moi, j'ai des suivis qui peuvent être assez longs, où la personne, on va dire, bon, allez, on se jette dans le français, et je dirais on se jette dans le français. Pour certains patients qui ont par exemple du mal à apprendre le français, là effectivement quand on va se retrouver alors dans le face-à-face, parce qu'il y a aussi des pratiques très, je dirais traditionnelles finalement de face-à-face, ils se jettent avec moi dans la langue française pour continuer l'élaboration. Voilà.
D'accord, ben voilà, moi j'ai merci, envie en de te dire merci, et merci à vous d'être là. Merci.